comme tu l'as si voir à Ésaïe. L'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur dans son temps. Fais-nous entendre aussi cette voix des séraphins qui s'écriaient, s'exhortant l'un l'autre, se disant l'un à l'autre, « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ce soir, nous voudrions te demander que nous puissions nous exhorter à la sainteté. Cette sainteté qui nous est devenue tellement étrangère, alors que la souillure, la corruption nous caractérise encore tellement dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Nous aimons encore faire des choses qui ne sont pas du tout glorieuses. Nous aimons dire des choses qui ne sont pas saines. Nous prenons notre plaisir encore en tellement de folie, alors que le ciel pleure sur l'état du monde, de ses multitudes, dans la détresse, affamées, pourchassées. Et nous, repliés sur nous-mêmes, nous vivons dans cette satisfaction qui devrait nous donner la nausée. Seigneur, parle-nous, change-nous, transforme-nous, donne-nous des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, un cœur qui aime, des mains qui te servent et des pieds qui marche dans l'empreinte des pas de celui qui nous a aimés jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Opère par ton esprit en chacun de nous, captive nos pensées, rends-les obéissants au Christ. Amen. Bien, mes amis, en ce mardi soir, 16 juillet, nous continuons notre thème, les enseignements du Dieu vivant, et tout particulièrement, comment découvrir et contempler ce visage, le visage de Jésus dans les Proverbes. Nous avons donc le chapitre 7 des Proverbes à lire. Vous savez qu'il m'a été rapporté hier soir, certaines personnes faisaient tout pour ne pas écouter. Je pense que le diable a certainement aidé par l'araignée. Il voulait nous distraire, nous amener ailleurs dans nos pensées. Vous savez, je ne me fais pas d'illusions. On peut physiquement être assis dans une salle, être tout à fait à l'heure, sans avoir besoin de lire un livre pendant le cours donné par un professeur qu'on n'aime pas. J'ai constaté cela à Aix-en-Provence, en particulier dans l'ancienne faculté de théologie. Il y avait certains professeurs que les étudiants n'aimaient pas, et ils venaient pourtant de loin, ils s'étaient déplacés, ils donnaient le plus possible, et c'était vraiment un message biblique. Je pense à un de mes amis qui est auprès du Seigneur maintenant, qui a écrit plusieurs livres que vous lisez peut-être, mais il y avait des étudiants qui n'aimaient pas du tout l'entendre, parce qu'ils citaient la Bible. Et alors, ils prenaient un livre et ostensiblement, ils lisaient pendant que notre ami donnait son cours. Ça m'a souvent affligé. Mais vous savez, ce n'est pas nécessaire, même pour ne pas être là, de lire un livre. comme le faisaient ces gens d'Aix-en-Provence. J'ai entendu le témoignage un jour d'un jeune Suisse qui disait dans un camp, vous savez, moi, j'étais obligé d'aller aux réunions avec mes parents le dimanche soir. Alors, je regardais toujours l'horloge. Je me disais, dans une heure, ça ira mieux. Alors, je faisais un match de hockey, de football. Alors, j'étais bien assis là. Il usait ses fonds de culotte sur le banc de l'église, mais il était tout à l'heure, il était au stade. Et c'est très possible de faire ça. Alors, on s'efforce de ne pas écouter, on concentre toute sa pensée, toute son énergie pour ne pas entendre. C'est possible. Mais je pense qu'on manque quand même quelque chose. Et voyez-vous, en lisant un livre comme les Proverbes, c'est impossible de ne pas se sentir interpellé sur un point ou sur un autre. Parce que vous avez remarqué que c'est un langage sans phare. Mais prêcher sur ce thème aujourd'hui, alors que tout est permis, que tout est excusé au nom de l'amour, ben, c'est vraiment vouloir être impopulaire. C'est vrai ou c'est faux? Je vous raconterai mon rêve tout à l'heure. C'est en tout cas être un gêneur. Un attardé à une morale qu'on nous dit être judéo-chrétienne. Puis on nous dit au Québec, vous savez, nous en avons assez souffert de cette morale judéo-chrétienne au Québec. Nous sommes des libérés. Et des libérés, eux. Et puis, plus de tabous. Fini les tabous. Il faut oser parler des délices, non pas du péché, ça n'existe pas le péché, des délices de la volupté. Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que la volupté? C'est le plaisir des sens. Alors, on aime parler et s'entretenir du plaisir des sens. Et vous savez, ce qu'on entend, c'est incroyable. Moi, je me souviens, j'étais enfant, en Suisse. Puis, mon père, il aimait bien quand même, de temps en temps, acheter un peu de vin en France, parce que c'est du bon vin. Alors, il y avait un vendeur de vin de Bourgogne qui arrivait, et puis il présentait ses vins. Et je me souviens tout petit encore, il disait à mon père, vous savez, celui-là, ce Bourgogne, il a du téton et de la fesse. Et ben, pour qualifier son vin, mais on est petit, hein. Alors son bon vin de Bourgogne qu'il voulait enfiler à mon père, c'était du vin qui avait du téton et de la fesse. Bon. Alors on comprenait à peu près, moi je comprenais pas, mais enfin, maintenant je comprends. Mais qu'est-ce qu'on entend au Québec? Je n'ai pas la télévision, je ne regrette pas. Mais de temps en temps, ben, j'écoute les nouvelles, puis des fois, j'écoute un peu plus longtemps pour voir ce qui se dit, parce que je veux aussi un peu savoir ce qui se passe au Québec, puisque je dois y prêcher. Mais je suis effrayée. C'est incroyable ce que les gens osent dire maintenant à la radio. Il faut vivre tous nos fantasmes pour trouver le bonheur. Hein. Mais qu'est-ce que c'est qu'un fantasme? C'est une illusion. Alors, on nous dit qu'il faut réaliser tous ces rêves, tous ces fantasmes. Vous aimeriez vraiment ça? Vous pensez que c'est ça qui va vous donner le bonheur? Puis, les conseils du jour, on les trouve où? Ah, chez les sexologues, parce que c'est surtout cette question qui nous préoccupe. Pour pouvoir trouver le plus de plaisir possible. Puis, chez les psychologues aussi. Moi, j'ai rien contre eux, mais... S'ils ne sont pas chrétiens, ils orientent notre jeunesse d'un mauvais côté, et même les psychiatres aussi. Alors on dit, il faut se défouler. Et alors on le fait par des lectures. Et vous savez que, en se remplissant la pensée, le cœur de tous ces romans, et souvent des romans pornographiques, eh bien, comment vous voulez vivre à prix d'une vie vraiment chrétienne? Je me souviens toujours que Mauriac, que je vous ai déjà cité, qui se disait un grand chrétien, il disait que les racines du roman, elles plongeaient dans quoi ? Dans le péché. Hein ? Il l'a dit. Les racines d'un roman, elles plongent dans le péché. Et c'est vrai. Maintenant, prenez les films que l'on veut vous montrer, soi-disant. Ah, c'est très instructif, le cinéma, et c'est vrai. Ce sont des choses, des inventions qui pourraient être utilisées, mais pour le bien. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les films ? Bien, comme notre sœur le disait, si il n'y a pas les 7 péchés capitaux dans un film, ben c'est un navet. Ça ne donne rien. Pour que on aime le film, il faut que ça parle à quoi ? À tous nos sens. C'est ce qui montre que, au fond, nous avons un cœur corrompu. La corruption est dans notre cœur, charnel. Et alors, il y a une réponse dans notre cœur. Le monde nous montre ces choses, puis en nous, qu'est-ce que le monde trouve ? Une réponse. Il y a une réponse. Tandis que c'est ça qui caractérisait Jésus. Il était dans le monde. Alors, le monde lui présentait toutes ces choses. Tout était présenté au Seigneur. Vous ne pouvez pas vous imaginer que le Seigneur vivait dans une tour d'ivoire. Il était en contact avec toutes les âmes. Il était proche de tous les êtres les plus souillés. C'est vrai ou c'est faux ? Mais il était sans contact avec la souillure. Mais il était près des gens souillés. Mais il les purifiait. Alors, on peut être proche de toutes les âmes et séparé de toute souillure. Voilà ce qu'était Jésus. Et alors, les convoitises qui se trouvaient dans ce monde ne trouvaient rien en lui. Tandis que nous, les convoitises, quand on nous les met sous les yeux, eh bien, elles trouvent un écho dans notre cœur. Il y a une correspondance. Je me souviens de certains films que j'ai dû voir, au fond, sans le vouloir, presque, dans des milieux religieux. Je pense à ce film qui avait reçu le grand prix du catholicisme, hein, le grand prix catholique. Mais heureusement, Paul VI, cet éditeur Paul VI, a cassé cette affaire. C'était Théorema de Pasolini. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, ce film. Vous connaissiez Pasolini, enfin il est mort, vous saviez ce qu'était sa vie, mais ce théorème, c'était une iniquité. Et j'ai entendu des professeurs de théologie, parce que c'était dans un milieu théologique, eh bien, des professeurs de théologie qui disaient, c'est la 15e fois que je vois ce film, et il m'édifie toujours. Il y avait l'homosexualité, il y avait tout ce que vous voulez, hein. Tous les amours interdits s'y trouvaient. Et c'était ça qui édifiait ce cher professeur de théologie qui formait des étudiants. Vous vous rendez compte ce que ça donne après ? Et cette homosexualité, bien évidemment, elle est mise aussi en vedette par quel film ? Quand même que je vous montre que je sais quand même un petit peu ce qui se passe dans le monde. La cage aux folles. Hein ? Je ne vais pas vous donner des détails. Mais voilà, il y a des marges d'homosexuels pour faire valoir leurs droits. Pour faire valoir leurs droits. Puis alors, ce qui me dépasse, c'est qu'il y a des pasteurs qui ont béni des mariages d'homosexuels, de lesbiennes ou d'hommes, hein, et des curés aussi, donc. C'est pas parce que ça se faisait en Hollande que ça peut se faire ici. Mais vous vous rendez compte, et le ciel contemple ce qui se passe sur la terre. On arrive dans des temps semblables à ceux de Sodome, de Gomorre. C'est vrai. Puis tout ça, mais c'est bien. Maintenant, prenez une femme qui a des besoins sexuels, par exemple. C'est normal, ça peut arriver. Mais qu'est-ce qu'on lui dit ? Comme elle n'a peut-être pas confiance en la pilule, bien on lui conseille, fais-toi opérer. C'est vrai ou c'est faux ? toi ligature et l'éperon. Parce qu'on ne veut pas tellement dire aux amants, faites-vous vasectomiser. Oui. C'était dans une conférence religieuse aussi. Il y avait une bonne sœur, puis c'était un chanoine qui parlait. Il avait employé le mot vasectomie. Puis la bonne sœur, elle s'est levée après, puis elle m'a dit, qu'est-ce que c'est une vasectomie? Alors évidemment, il y avait des sourires. Il fallait aussi instruire la bonne sœur. On est très préoccupé par toutes ces choses. Et c'est incroyable ce qu'on peut entendre justement à la radio ou à la télévision. La bestialité chez les hommes, chez les femmes. Maintenant, on traverse nos rues, eh bien, des grandes affiches. Un salon de femmes nues, de seins nus. Et il y en a qui ont été choqués hier parce que il est dit, pourquoi baiserais-tu le sein d'une étrangère? Ben c'est dit, hein. C'est... La Bible, elle emploie des mots. Vous direz que c'est cru. On dit, oh, c'est un mauvais livre, la Bible. Hein, parce que la Bible, elle emploie des mots pour vous heurter. Il y a des choses qui devraient vous heurter. Il y a des choses qui doivent vous hérisser, qui doivent vous scandaliser. Tandis que le cinéma, lui, il vous fait aimer le péché. Il fait passer le péché. C'est le péché sous les fleurs, le cinéma. Tandis que la Bible, elle vous donne, ça vous répugne, ça vous révolte. On dit, oh, il y a des choses épouvantables dans la Bible. Mais ces choses épouvantables, elles sont dites pour que nous n'y tombions pas. Et c'est cela que vous devez comprendre. La Bible est un livre très saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et sa parole est une parole sainte. Mais l'autre jour, j'avais écouté les nouvelles, puis immédiatement après, il y avait un commentaire à Montréal, il y avait eu, je crois, des Argentins qui étaient venus, une troupe d'Argentine. Et la personne qui commentait cela, pour instruire le public, elle disait, oh vraiment, j'ai été déçu. J'ai été déçu, elle disait ça ouvertement. Et l'homme qui parlait avec elle dit, pour quelle raison? Mais j'ai trouvé que c'était pas assez cochon. Parce que moi, je m'attendais que les Argentins, ben, ça ferait mousser, puis que ce serait beaucoup plus cochon que ça. Voilà, ça ose dire ça, et c'était à Radio-Canada. Donc, je ne sais pas si vous écoutez le Festival de l'humour québécois. Ben, de quoi est-ce que les gens se nourrissent? Puis qu'est-ce qu'on entend? Si par malheur on l'entend, les gros rires. Alors tout le public est en liesse, tout le public rit avec la bonne bière. Mais vous savez, c'est pas qu'au Québec. Il y a un grand scandale en France. Parce que maintenant, dans le protestantisme, c'est la même chose. Les pasteurs ont trouvé que pour détruire l'égoïsme, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut avoir assez d'amour pour prêter sa femme à quelqu'un d'autre. Ça, alors, c'est vraiment le don. C'est l'image, comme le Père Céleste a donné son fils, moi je donne ma femme, pour qu'elle puisse satisfaire les autres. Et je montre ainsi que je suis plein d'amour et que je ne suis pas égoïste. Ces hommes qui gardent pour eux leurs femmes, ce sont des gros égoïstes. Et puis, ces femmes qui gardent pour eux leurs hommes, c'est aussi des égoïstes. Vous savez, c'est quelque chose de triste. Et les autorités de l'Église réformée de France savaient la chose. Il y avait deux pasteurs amis dans une paroisse, et ils échangeaient leurs femmes, et les enfants qui naissaient, ben, on les élevait ensemble. Et pendant 4 ans, tout le monde savait cela. Alors, quel exemple voulez-vous donner à nos enfants maintenant? Si ceux qui ont la charge d'enseigner font des choses comme cela, c'est la destruction du mariage. Quand on m'a demandé de faire le 700e anniversaire de la collégiale de Neuchâtel, ma ville natale, eh bien, j'ai entendu des choses incroyables. D'abord, il fallait que je fasse 10 jours de conférences, là, pour toute la ville, à l'occasion de ce 700e anniversaire. Il y aurait aussi bien les catholiques que les protestants que les athées. Mais le comité, qui était formé de pasteurs et d'anciens, avait de la peine à accepter les thèmes que je mettais. Parce que j'avais dit, je voudrais commencer par... Y a-t-il une résurrection des morts? Ils m'ont dit, mais ça ne passera pas, mon cher ami. On n'aura personne si vous mettez ce titre-là. Y a-t-il une résurrection des morts? Personne ne croit à la résurrection des morts. Or, moi, justement, à l'occasion de ce 700e anniversaire, je voulais demander, où sont-ils les chanoines de la collégiale de Neuchâtel? Ceux qui y exerçaient il y a 700 ans, puis qui ont été mis de côté parce que le protestantisme est venu. Et puis après, il y a eu beaucoup de théologiens à Neuchâtel. Alors je voulais dire, où sont-ils? Où sont-ils? Alors, ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts. Et nous qui sommes ici, un jour nous serons morts. Je voulais que ça perce. Ils m'ont dit, mais il n'y aura personne. Je dis, mais ça fait rien. Y aurait-il qu'une âme? Ça, c'est biblique. La Bible vous dit, cherchez dans la ville de Jérusalem. Et trouvez-moi un homme qui fasse ce qui est droit, et je pardonnerai à la ville. Un aurait suffi, mais j'ai cherché un homme et je ne l'ai pas trouvé. Vous savez, Dieu ne travaille pas avec la masse, il travaille avec des individus. Et je voudrais que vous croyiez ça et que vous puissiez saisir cela. Parce que maintenant, on ne croit qu'à des grandes réunions de masse. Alors on fait des grands frais, de grands efforts pour faire l'évangélisation des masses. Et on croit que c'est comme ça que l'évangile va pénétrer dans les cœurs. C'est faux et archi-faux. Le Seigneur, je le vois dans l'Écriture, il choisit un homme, il le qualifie, et puis il opère avec lui. Attention à tout ce qui se passe. Ayez du discernement. Et, bon, le Seigneur a permis que, finalement, les messages passent. Et il y a eu du monde. Plus qu'on ne pouvait l'imaginer. Parce que les gens ont soif d'entendre la vérité. Mais savez-vous ce que les pasteurs me disaient? Il faudrait parler plutôt du chômage. Faire une réunion sur le chômage. Il y a d'autres personnes pour faire une réunion sur le chômage. Moi, j'annonce l'évangile. Faire une réunion sur les pays sous-développés, où on voit le développement. Il y a d'autres personnes pour faire ça. Ma tâche, à moi, c'est de prêcher la parole. Oui, mais la parole, ça passe plus. Quand j'ai dit, le troisième soir, je voudrais parler de la vie éternelle. Oh, mais ne parlez pas de la vie éternelle à Neuchâtel, personne n'y croit. C'est quelque chose de terrible, chérie. Et il faut lutter même avec des hommes dits spirituels, qui ne croient, ils ne croient pas, ils ont peur. Mais il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Croyez que le Seigneur disait, si je passe par la Samarie, j'aurai du monde. Ça vaut la peine que je fasse ce déplacement-là. Il savait qu'il y avait une femme qui avait soif d'une autre vie. Hein. Il est allé pour cette femme. C'est ça, mon Seigneur. Mais on ne voit plus le Seigneur. On voit les grands mouvements, maintenant. On voit les œuvres. On parle que des œuvres. Mais de sa personne. Alors, vous savez ce qu'on a mis comme titre, puisqu'il ne voulait pas la vie éternelle? J'ai fait le jésuite, suivant Saint-Ignace, comme tu dis. J'ai dit, est-ce qu'on mettait la vie véritable aujourd'hui? Ils ont dit, oui. J'avais envie de dire imbécile, c'est un mot français. Pour quelle raison? Parce que dans l'Écriture, il est dit, la vie véritable, c'est la vie éternelle. Mais et si on ne connaît pas trop la parole, alors, oui, la vie véritable, ça plaisait. Hein. C'est la vie éternelle, la vie véritable. C'est dans le texte, ça suit, chapitre 5 de la première épître de Jean. Alors, mes amis, je voudrais vous donner confiance dans la Bible, même si vous trouvez que c'est un langage cru. Et quand on a lu ça, pourquoi baiserais-tu le sein d'une étrangère? Je pensais aussi à ce jeune qui s'est converti à New York, c'était un ancien drogué, puis il a dit à son ami, qui n'était pas converti, elle, que maintenant, il choisissait Jésus. Vous savez ce qu'elle lui a dit? Pour essayer de le retenir? Elle a pris un de ses saints, elle l'a sorti comme ça, je ne sais pas si c'était aussi long, puis il a dit, si tu acceptes Jésus, tu n'auras plus de ça. Tu n'auras plus de ça. Si tu acceptes Jésus, tu n'auras plus de ça. Alors, c'est ça. Un saint, c'est ça. Alors, on est heurté parce que la Bible dit des choses comme ça. Un langage clair. La paix d'un chat, un chat, une souris, une souris. Et voyez-vous, alors tout est orchestré maintenant, jusque dans la musique, pour faire mousser nos sens. La drogue, l'alcool, la musique maintenant, tout est fait pour nous conduire loin de la pensée du Seigneur. Alors je reviens maintenant à notre chapitre, et nous le lisons. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Ça, c'est l'introduction à ce chapitre. Puis, depuis le verset 6, nous avons une histoire qui a été observée. J'étais à la fenêtre de ma maison. Et je regardais à travers le treillis qui, en Orient, empêche le soleil de nous brûler. Toutes les fenêtres en Orient ont un treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Vous me direz, ben, c'est pas valable ça. Comment est-ce qu'on peut dire que c'était au crépuscule, puis tout de suite après, au milieu de la nuit et de l'obscurité? Vous êtes déjà allé en Orient? On arrive, il y a encore un peu de lumière, puis tout d'un coup, c'est la nuit. Hein? Ça tombe, la nuit, elle tombe. Dès que le crépuscule est là, tout à coup, paf, c'est la nuit. Alors, le crépuscule et la nuit, c'est la même chose, en Orient. Il n'y a pas, comme chez nous, un long temps, comme nous avons encore eu ce soir. Alors donc, c'est dans la nuit qu'il s'avance. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit, voyez là, la façon dont on séduit les gens. Elle le saisit, puis elle l'embrassa. Elle donna un effronté et lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher, je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès, de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un lointain voyage. Il a pris avec lui le sac d'argent et il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Ça fait au moins un mois. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se vit tout à coup à la suite. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Sans savoir que c'est au prix de sa vie. Alors, la conclusion, elle est très courte. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers la demeure des morts. Et une fois de plus, nous demandons à Dieu qu'il bénisse sa sainte parole. Jusqu'à présent, mes amis, dans ce que nous avons vu, dans les chapitres que nous avons étudiés, trois genres de femmes nous ont été présentées. L'étrangère, qu'on peut aussi traduire par l'apostate. L'étrangère, c'est une femme qui n'a aucune relation avec Dieu. La deuxième femme, c'est la prostituée, c'est-à-dire celle qui se livre à la débauche pour de l'argent, comme nous l'avons souligné ce matin. Et puis l'adultère. Qu'est-ce que c'est que l'adultère? C'est celle qui viole la loi conjugale. Elle est mariée, elle a promis la fidélité pour les bons et pour les mauvais jours, et puis voilà qu'elle est infidèle, elle va avec quelqu'un d'autre, ou si c'est le mari, il va avec quelqu'un d'autre, il a ce qu'on appelle une maîtresse. Ça, c'est l'adultère. Violer la loi conjugale. Alors, celui qui garde les paroles de la sagesse, celui qui observe les commandements du Seigneur, lui, il est dit qu'il vivra. Voyez-vous, si nous avons eu des parents chrétiens qui nous ont élevés dans la crainte du Seigneur, nous devons rendre grâce à Dieu et le bénir, parce que ça nous a évité de faire des choses et de connaître une vie que nous aurions bien pu mener autant que les autres, parce que notre cœur, quand on le voit dans la lumière de Dieu, bien, on ne se fait pas d'illusions. Dans notre cœur, il y a tout pour faire tous les péchés possibles. Je ne jugerai jamais quelqu'un qui tombe dans les péchés, même les plus grossiers, parce que je sais très bien que laissé à moi-même, j'aurais été capable de les commettre. Nous avons une nature qui est mauvaise et nous le reconnaissons. Dieu nous l'a dit et nous lui donnons raison. C'est comme ça qu'on devient juste. C'est en donnant raison à Dieu. Alors mon fils, retiens les paroles. Ces paroles que nous avons reçues de la sagesse qui a conduit nos parents et qui était la sagesse même de Jésus. Garde avec toi mes préceptes, ce que Jésus a enseigné. Il est la sagesse, il est l'intelligence. Alors il a dit, observe-les et tu vivras. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vivras? C'est simplement tu auras une belle vie sur la terre. Non, tu vivras toujours. Tu vivras toujours. Ça veut dire, tu connaîtras la résurrection des morts. tu connaîtras la vraie résurrection, la résurrection des justes. Tu vivras. Quand la mort m'atteindra, je sais que je m'endormirai, si le Seigneur n'est pas venu avant, dans l'assurance de la résurrection. Ceux qui sont morts, nos bien-aimés qui sont morts, ressusciteront. Nous croyons à la résurrection d'entre les morts et à la résurrection des morts. Car le Christ est ressuscité. Et s'il n'y avait pas de résurrection, le Christ ne serait pas ressuscité. Et si le Christ n'était pas ressuscité, nous serions encore dans nos péchés et nous serions sans espérance. Donc, nous avons l'assurance de la résurrection si nous gardons les commandements du Seigneur. C'est ce qu'il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie et il ne vient pas en jugement. Alors, observe mes préceptes, tu vivras, garde mes enseignements. Comment est-ce qu'on doit les garder, ces enseignements? Comme la prunelle de nos yeux. Est-ce que ça a de la valeur, la prunelle de nos yeux? Oui, c'est très sensible. Alors, nous ne voulons pas perdre la vue, nous voulons garder les commandements du Seigneur comme ce que nous avons de plus précieux, la prunelle de nos yeux. C'est comme cela que priait le psalmiste dans le psaume 17e. Nous trouvons la prière de David et il disait ceci. Je crois que c'est au psaume 17e. Oui, verset 8. Garde-moi, Seigneur, comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Le Seigneur veut nous garder comme la prunelle de l'œil. Et puis, nous aussi, nous voulons garder sa parole comme la prunelle de nos yeux. Parce que cela nous est très précieux. Mais ces commandements, nous ne les garderons pas seulement comme la prunelle de nos yeux, mais nous les lirons sur nos doigts. Qu'est-ce que ça veut dire? Lier ces commandements sur nos doigts. Bien, dans toutes nos actions, c'est la parole du Seigneur qui doit nous diriger. Il n'y a pas une chose que vous avez à faire sans y mêler le Seigneur. Ne dites pas, je ne veux pas déranger le Seigneur pour ça. Non, il n'est jamais dérangé. Il s'attend à ce que vous le fassiez entrer dans toutes vos actions. C'est ça, lier les commandements sur nos doigts. Même quand vous tricotez, mes sœurs. Ben, alors ça, vous comprenez, hein, vos doigts font quelque chose de bien. Et mais vous pouvez prier. Lier les commandements sur des doigts. Je sais, en allant souvent en Israël, je vois des juifs, ils mettent alors des petites bandelettes sur les doigts. Mais ça ne les aide pas à agir. C'est pas ça qui nous est demandé, de mettre ça réellement sur nos doigts, des petites bandelettes. Parce que je peux avoir mes petites bandelettes sur les doigts. Je peux même, vous savez aussi, on pourrait dire beaucoup de choses avec les t-shirts. Il y en a qui se mettent là, travers les seins, je ne sais pas, Jésus t'aime ou je ne sais trop quoi. Moi, ça me crispe. Parce que vous en mettez devant, puis après on en mettra derrière, et on s'asseyera sur le nom de Jésus, finalement. Non, mais c'est comme ça, on veut mettre le nom de Jésus partout, on le met à toutes les sauces. C'est soi-disant pour faire une évangélisation complète. On ne perd pas de temps, hein. On évangélise. Alors on se met un verset là-dessus, devant, derrière, pour que tout le monde puisse nous voir. Vous croyez que c'est le respect pour le nom de Jésus? Ou sur la plaque devant, hein, on trouve une plaque pour faire de l'évangélisation, puis on met n'importe quel verset devant. Ou bien alors on en met derrière. Mais j'ai rien contre tout ça. Mais je vous dis, réfléchissez avant de faire ça. Parce que si tu mets derrière, où passeras-tu l'éternité? Et que tu provoques toi un accident parce que, enfin, tu as fait une fausse manœuvre et puis quelqu'un te rentre dedans et puis se tue, où passeras-tu l'éternité? Tu l'as tué? Tu ne l'as pas évangélisé? Ou bien Jésus t'aime comme tu es, puis vous l'avez renversé, puis il est par terre, puis il ouvre un œil, je t'aime comme tu l'es, puis il est plein de sang. C'est de votre faute, c'est parce que vous avez transgressé. Vous avez transgressé le code de la route. Alors, oui, pesez. Moi, je suis bien d'accord, vous mettiez ça dans vos maisons, partout, des textes. Mais vivez ces choses, alors. Car il est dit, et c'est un commandement, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Or, on met maintenant le nom de Jésus à toutes les sauces. Et alors, ça ne vaut plus rien. Jésus est saint. 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 Alors, écris-les où? Sur les tablettes de ton cœur. De ce cœur d'où sortent tes pensées. C'est du cœur que sortent nos pensées. Donc, où doit se trouver les commandements du Seigneur? Sur les tablettes de notre cœur. Et qui est-ce qui va les inscrire sur les tablettes de notre cœur? C'est par la lecture. En plongeant vos regards dans cette loi parfaite, alors tout cela s'inscrit par le Saint-Esprit à l'intérieur. Et alors vous avez une Bible dans votre cœur. Et vous êtes ainsi gardé justement, de l'influence de ces trois femmes dont nous avons parlé, de l'étrangère qui nous dit ceci, l'Écriture nous dit ceci, un vrai croyant, est-ce qu'il épousera une personne qui ne croit en rien? Que dit l'Écriture? C'est clair, c'est catégorique, et je refuserai un mariage qui ne serait pas entre vraiment deux enfants de Dieu qui confessent le Seigneur. Chapitre 6 de la deuxième épître aux Corinthiens, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Donc ça c'est clair. Quand quelqu'un vient nous dire, mais vous ne pensez pas que si j'épouse cette fille-là, je l'amènerai au Seigneur? C'est pas en l'épousant que tu l'amèneras au Seigneur. Ou bien alors, si j'épouse ce garçon, bien, je l'évangéliserai. Il peut vous promettre tout au monde. Et c'est ça justement les hommes. Ils vous désirent parce que vous êtes une fille bien, alors ils vous font toute espèce de promesses tant que vous n'êtes pas mariée. Une fois que vous serez mariée, vous verrez que ça sera différent. C'est ça les pièges des hommes. On m'a dit, il faudrait souligner aussi comment les hommes peuvent être un piège. Parce que vous savez, une jeune fille chrétienne qui a le cœur quand même ouvert, la plupart des hommes, c'est des plaignants. Ils se plaindront de ceci, de ça. Ils n'ont pas eu cela dans leur jeunesse ou dans leur première expérience. Et puis, ils voudraient vraiment connaître une vie différente. Puis on raconte un tas de trucs, un tas de bobards. L'homme est menteur. Alors, s'il n'a pas le Seigneur, il n'y a pas à hésiter. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas pour moi. Je préfère Christ. Oui, si vous vous soumettez à la parole, le Seigneur vous bénira. Ce n'est pas à parler de la fréquentation des prostituées, un croyant, eh bien, c'est ce qu'il a à faire. Quant à l'adultère, eh bien, demandons au Seigneur qu'il nous en préserve, car c'est transgresser un des grands commandements de la loi divine, tu ne commettras pas adultère. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Voilà ma vraie famille. Et alors, vous voyez combien on contre ça. Est-ce que vous... Qui c'est la sagesse? C'est Jésus. Et quand on a dit à Jésus un jour dans Matthieu 12 que sa mère et ses frères le cherchaient, Jésus a répondu à ses disciples, « Qui est ma mère ?» Et qui sont mes frères. Puis les regardant tous, il a dit, « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Donc la sagesse, c'est Jésus. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, ou à l'intelligence. Dis-lui, tu es mon ami. Alors votre ami, laquelle c'est? Qui est votre ami? La sagesse? Je ne sais pas si elle est blonde. On parle toujours de sa blonde. Appelle l'intelligence ton ami. Là, vous avez une liaison permise. Ton ami. Alors, après ce préambule, l'auteur raconte donc ce fait d'observation. Alors, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est très, très facile à voir ce qui s'est passé. Mais ce qui me frappe, qui est ce garçon? C'est un croyant. C'est un fils de la sagesse. Parce qu'il est appelé fils. Et voilà ce qui peut arriver. Et ça arrive surtout quand il y a peut-être un peu la paresse qu'on a vue. Hein. On n'a pas grand-chose à faire. Alors, on a du temps. Et puis, on veut un peu voir comme la fille de Jacob qui, à Sichem, veut sortir un soir pour voir les filles du pays. On veut voir les filles du pays, puis qu'est-ce qui lui arrive? Elle est enlevée par Sichem, le fils d'Amor, le prince de Sichem. Puis elle est violée, puis après ça fait tout un drame. On veut sortir pour voir les filles du pays. Puis il arrive un drame. Alors ce garçon, il a eu l'enseignement du Seigneur. Il a eu l'enseignement d'un père, d'une mère. Mais voilà, pourquoi est-ce que je ne ferai pas une promenade ce soir? L'homme observe, j'étais à la fenêtre de ma maison, j'ai vu, j'aperçus parmi les stupides. Parce qu'on peut être enfant de la sagesse et rester stupide si vous ne voulez pas vous nourrir de la parole de Dieu. Je remarquais parmi les jeunes gens, donc des gens sans expérience, un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait une de ses étrangères. Ce n'est pas nécessairement qu'il avait un rendez-vous. Peut-être avait-il un rendez-vous, ça je ne le sais pas. Mais enfin, ce n'est pas nécessaire d'avoir un rendez-vous. Si vous traversez certaines rues, bien on les rencontre, ces personnes. Et puis pourquoi est-ce qu'on va dans ces rues? Je me souviens toujours d'une chose qui m'était arrivée en Belgique. Je faisais un camp universitaire en Belgique, et puis on était à Anvers. Alors les étudiants, voulant me jouer un tour, on dit, oh, vous savez, monsieur Racine, on aura un moment de détente cet après-midi, et on voudrait vous montrer un peu la ville. Puis ils m'ont amené dans une de ces rues. J'ai cru que d'abord c'était une boucherie, parce qu'il y avait des grandes vitrines, mais au lieu que ce soit de la viande, c'était des femmes, en vitrine, les unes après les autres, dans toute la rue. Elles avaient différents aspects, différentes robes, etc. Puis on pouvait choisir. Puis ils m'avaient laissé comme ça. C'est quand même terrible. On veut voir. Il n'y a pas besoin d'avoir un rendez-vous. Ailleurs, on nous accoste. Et surtout, peut-être, quand on a eu peut-être un petit conflit avec son épouse, avec sa femme, puis qu'on a dû sortir pour se calmer un petit peu. Ça arrive aussi. Alors, on marche dans la rue, puis c'est justement à ce moment-là que l'ange noir est sur le chemin. Et ça m'est arrivé une fois à Nice. Je remonte pour demander pardon à ma femme de m'être un peu énervée. Et puis, il y a bien longtemps que ça. Mais, sur la rue, justement, moi j'étais tout à fait dans mes pensées. Puis, là au refuge, il y avait une réunion. Mais je m'étais fait remplacer ce soir-là. Puis à ce moment-là, une femme sort d'un porche. Elle me dit, monsieur, vous m'invitez? Puis moi, bêtement, je tombe des nues. Pourquoi faire? Pour faire l'amour. dit, c'est votre métier? Il dit, oui. Et vous êtes heureux? Ah, très heureux. Alors, vous devez dire, ben, vous avez pris l'occasion pour l'évangéliser, au moins. Non. J'ai pressé le pas, et mon cœur allait comme ça. J'étais humilié. Mais humilié de penser, voilà, juste au moment où il y a un petit conflit avec mon épouse, il y a la tentation. Enfin, la tentation, c'était une tentation pour moi, si vous voulez, là. Mais quand même, l'occasion. On leur dit, mais je ne l'ai pas cherché. J'avais peut-être besoin d'un peu de consolation. Ouais. C'est ça, votre consolation? Non. Mais alors, on peut prier et puis se dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ces femmes, pour qu'elles aient aussi le Seigneur, pour leur amener le Seigneur? Alors vous voyez ces rencontres, ne dites pas, mais moi j'ai pas cherché la chose, j'ai pas voulu, ça s'est présenté comme ça. Parce que vous arriverez à dire que Dieu l'a permis, et vous mettrez la faute sur Dieu. Alors je passe, j'ai pas besoin de revenir sur tous ces versets, c'est simple, il n'y a rien de compliqué, mais je voudrais vous montrer simplement comment le gars qui s'est mis dans un mauvais endroit, alors que certainement il savait qu'il ne devait pas aller dans cette rue, mais on y va quand même parce qu'on pense qu'on est assez fort. Et qu'est-ce qui lui arrive? Bien, la femme sort, et puis, comment est-ce qu'elle essaye de le séduire? Il y a toutes sortes de degrés. Hein. Verset 13. Elle le saisit. On vous attrape hein, par votre manteau. Mais vous ne laissez pas votre manteau. Vous ne fuyez pas comme Joseph. Vous restez. Puis, elle l'embrasse. Pourquoi pas? Puis d'un air effondré. Alors on l'écoute. Puis, mais elle est sérieuse, cette personne. Elle revient du temple. Figurez-vous, elle a offert un sacrifice. Elle a un langage tout à fait religieux. N'est-ce pas? Elle a offert un sacrifice d'action de grâce. Il ne faut pas vous imaginer que c'est une païenne. Elle a des bons sentiments. Puis elle avait fait un vœu, elle a accompli ses vœux. Donc elle est de parole, cette femme. Enfin, c'est elle qui dit ça. Mais enfin, elle se donne une apparence de piété. Ils ont l'apparence de la piété. Mais ils en ont renié, si en fait, la force, a dit Paul dans la deuxième épître à Timothée. Alors elle dit maintenant, mais c'est pourquoi je suis venu auprès de toi, on suit toi tout de suite, hein. Pour te chercher, je t'ai trouvé. Alors on est un peu flatté, hein. Je pense que je lui plais. Alors l'homme, ça lui plaît, ça. Puis, alors elle continue, j'ai orné mon lit de couverture, de tapis d'Égypte, etc. Lui, son petit intérieur. Elle a mis des parfums, de la myrrhe, de l'aloès, de la cinnamone, etc. Ce sont des parfums. Puis, alors, la phrase, viens, viens. Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin? Mais l'amour, ce n'est pas interdit. Du moment qu'on s'aime, tout est permis. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Mais voilà. Elle ajoute qu'elle a un mari. Mais son mari n'est pas là. Alors donc, on ne risque rien. C'est la femme mariée. Pourquoi est-ce qu'on est mis en garde contre la femme mariée, justement? Parce qu'elle, elle a des possibilités que la prostituée ne donne pas. La femme mariée est plus dangereuse que la prostituée quand elle commet adultère. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti en voyage lointain, donc tu ne risques rien. Il a pris avec lui le sac d'argent, ça veut dire qu'il en a pour longtemps. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Et il le séduisit à force de paroles. Alors il a continué d'écouter. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Qu'est-ce qui arrive? Verset 23, ça me saisit. Il se mit. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout à coup. Il n'a pas pu résister. Mais c'est tout à coup. Tout à coup, sa volonté a cédé. Mais vous avez vu le chemin de la séduction. Comment? Il y a des degrés. Hein. C'est l'eau qui monte, qui monte, qui monte, puis tout d'un coup, on coule. Et il a coulé. Mais alors, quelle est la réflexion? J'ai parlé hier de viande. N'est-ce pas qu'on veut changer de viande? Ben lui, c'est du bœuf. Oui, parce que je ne voudrais pas avoir offensé quelqu'un ici. Mais là, il est dit clairement, qu'est-ce qu'il a fait? Il se mit tout à coup à le suivre comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier, comme on fait en Iran, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite. Il a oublié qu'il avait des ailes et il tombe dans le filet au lieu de passer au-dessus du filet. Il est tombé dans le filet sans savoir que ce qui se passe là, c'est au prix de sa vie. Vous voyez, alors on rejoint d'autres passages qui nous disent pourquoi c'est au prix de sa vie. Si le mari revient, parce qu'il y en a qui peuvent revenir avant le temps, ou qui peuvent avoir prétexté qu'ils partaient, et puis simplement pour mettre, parce qu'on avait quelques doutes sur la femme, alors on dit, tu sais, je pars en voyage, puis on ne part pas du tout, on fait semblant d'être parti, et puis voilà, on rentre et on trouve l'infidélité de cette épouse, et il a risqué sa vie. Alors, verset 24, on termine. Puisqu'on sait cela, maintenant, je me demande s'il y a un maintenant pour vous. Si vous pouvez dire, bien, il y a des choses maintenant que j'ai compris. Je les ai comprises et je donne raison à la parole. J'ai compris. Maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux ceux qui ont été tués, qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Elle descend vers la demeure des morts. Tandis que le chemin de la vie, il monte. Alors, mes amis, je vous dis deux mots. Hier soir, je suis rentrée dans ma chambre. Puis, dans mon premier sommeil, j'ai eu un rêve. J'étais à Paris, dans une grande église, et je voyais assis là le pasteur de l'église où je devais prêcher. Puis, il y avait un invité de marque, un philosophe, qui était là, et je devais prêcher. L'église était pleine, et il y avait une aide paroissiale, oui, une aide de paroisse. Et qu'est-ce que je prêchais? Je prêchais la parole. Prêche la parole. Insiste en temps et hors de temps. Il viendra un temps où les auditeurs se chercheront des docteurs qui chatouillent leurs oreilles. Parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Puis, ce n'était pas des choses agréables que je disais. Je prêchais la parole, comme j'essayais de vous la prêcher hier soir, avec un texte comme celui des Proverbes. Et je sentais une résistance. Parce que vous savez, on sent dans son auditoire, quand il y a de la résistance, il n'y a pas besoin qu'il y ait des manifestations d'opposition, mais on sent. On sent qu'il y a de la résistance. Et quand j'ai eu fini, j'ai eu un entretien d'abord avec le philosophe. Et il m'a dit des choses bizarres. Il m'a dit, vous savez, hein, vous venez de ces églises évangéliques, mais moi, je ne crois pas qu'elles soient plus évangéliques que les autres, que les églises officielles. Ça, j'entends encore. Parce qu'au fond, on a fait un recrutement, on a pris toutes les personnes qui n'avaient rien à perdre en quittant les églises officielles pour en faire des milieux dits évangéliques. Vous n'avez qu'une doctrine plus biblique. Mais la vie de ces gens-là, ben je la vois et je les connais, ces gens. Ils ne sont pas mieux dans vos milieux évangéliques que dans les autres églises. Vous voulez créer une foule d'autres églises, soi-disant type, mais au fond, les gens que vous avez rassemblés, c'est des gens qui ne pouvaient plus se remarier dans le catholicisme, parce que le catholicisme ne veut pas du divorce. Alors vous les avez tous ramassés. Mais la vie de Jésus n'est pas plus manifeste parmi eux que dans les églises qui ne croient pas peut-être à l'inspiration plénière des Écritures. J'étais un peu bouleversé de l'entendre. Alors je me tourne vers le pasteur, toujours dans mon rêve, qui me dit, vous savez, monsieur, si je prêchais moi dans mon église, comme vous avez prêché, ben je viderais mon église. Alors, c'est des choses que je ne peux pas faire. Parce que moi, je ne veux pas vider mon église, je suis payé par elle. Je suis le serviteur de mon église. Il y a des sujets que je n'aborderai pas parce que l'église me paye et je dois la satisfaire. Mais je ne peux pas prêcher ces choses-là. Parce que je viderai mon église. Et je m'entendais lui répondre, c'est peut-être par là qu'il faudrait commencer pour pouvoir la remplir. De gens qui viendraient vraiment, mais qui ne viennent pas à cause de ces gens qui sont là et qui ne sont pas des chrétiens, qui ne sont que des chrétiens de nom. Puis tout à coup, je me suis réveillé. Et je me suis levé. Alors je vous dis simplement ce rêve. Moi, je crois que c'est le moment de nous humilier. C'est le moment de nous repentir. Quand je suis venu pour la première fois en 1960 au Québec, j'ai rencontré des hommes qui avaient la charge de plusieurs milieux évangéliques. Et qui m'ont dit, vous savez, cher ami, vous venez des vieux pays, mais dites-vous bien que nos milieux au Québec, c'était un autre temps, eh bien, ils ne sont pas capables d'entendre plus qu'un message d'école du dimanche, parce qu'il n'y a pas de culture, beaucoup, et alors il vous faut vous borner à faire le message strict d'évangélisation, du petit salut. Parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre plus que le petit salut. Ça m'a heurté quelque chose de terrible. Le petit salut. Mais qu'est-ce que c'est le petit salut? Moi, je ne connais pas. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Puis j'ai dit, mais les renseigner seulement l'école du dimanche. Mais ils ne vont pas croître alors. Il ne faut leur donner que du lait. Ils ne mangeront jamais de viande. Mais vous les méprisez, vos Québécois. Or, nous devons les aimer, et les aimer assez pour qu'ils puissent grandir. Et j'ai pris cet exemple de l'évangile de Jean, c'est l'évangile le plus simple. Il n'y a dans l'évangile de Jean que 700 mots différents. Le vocabulaire de l'évangile de Jean contient 700 mots différents. Et c'est l'évangile le plus profond. Donc, simplicité va de pair avec profondeur. De sorte que Jésus, lui, il a pris les plus pauvres et il les a élevés de dessus le fumier, il les a élevés sur les trônes. Je te loue, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux petits-enfants. Alors, moi, je crois que c'est justement ces vérités-là qu'il fallait enseigner. Je me suis efforcé de le faire. De leur parler non pas seulement de Jésus mort pour nos péchés, mais de nous morts avec lui pour éviter de rester sous la puissance du péché. Et c'est ça le message qui peut libérer les âmes. Alors aujourd'hui, eh bien évidemment, vous me direz, mais maintenant les temps ont changé, et grâce à la révolution tranquille, maintenant nous avons des universitaires dans nos assemblées. J'ai même entendu une chose incroyable. Il y a quelques mois, j'étais du côté du lac Saint-Jean, et quelqu'un disait, vous savez, nous avons le premier dentiste-chrétien dans notre église. Il n'y a jamais eu de dentiste-chrétien avant. Maintenant, nous avons un dentiste-chrétien. Donc, vous voyez, ça monte. On se glorifie d'avoir un dentiste-chrétien. Je suis heureux pour votre palais. Voyez-vous, faisons attention de ne pas tomber dans le triomphalisme maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de conversions, enfin, de gens qu'on dit convertis. Et demandons qu'il y ait un approfondissement, que nous soyons sérieux et ça nous préparera à notre étude du chapitre 8 que nous ferons demain si nous sommes encore de ce monde. Prions. Notre Dieu, nous voulons te demander que dans un monde où règne la corruption, nous puissions le traverser en restant purs, parce que nos cœurs auront été vraiment captivés par toi. Tu ne nous as pas donné de la morale, tu nous as donné ta personne. Et c'est parce que tu es là, en personne, parce que tu habites notre vie, parce que tu n'es pas une idée pour nous, mais que tu es Dieu toi-même, manifesté en chair, et qui nous a été donné par ton esprit. C'est par ta force que nous pourrons traverser ce monde en t'honorant et en te glorifiant, ayant une vie heureuse, même au sein des tribulations que nous devrons connaître. Que ta grâce opère cette nuit dans chacun de nos cœurs et que le dessein bienveillant que tu avais pour chacune de nos vies, tu l'accomplis. Et que nous puissions, après avoir entendu ce récit de ce chapitre 7, nous souvenir d'un autre homme qui n'avait pas les privilèges que nous avons, qui n'avait pas de Bible, Joseph, en Égypte. Qui lui aussi, chaque jour, était sollicité par la femme d'un autre, par la femme de Potiphar, et qui a pu lui résister tous les jours. Et qui, lorsqu'elle a voulu le saisir, a laissé son manteau pour s'enfuir, n'a pas cru qu'il pourrait résister. Donne-nous de fuir la tentation, et non pas de jouer avec le feu. On ne peut pas prendre du feu dans ses vêtements sans être brûlé. On ne peut pas marcher sur des charbons sans être blessé. Donne-nous cette intelligence. Nous te le demandons. Et que ce soit pour nous quelque chose de définitif dans nos cœurs, avec toi, Seigneur. Que nous puissions attendre de toi ta délivrance comme Joseph l'a attendu et n'a pas été déçu, puisque tu as fait concourir toutes ces épreuves à son bien suprême et au salut aussi de toute sa famille. Donne-nous d'être réconciliés avec tes voies. C'est notre prière pour nous et tous ceux que nous aimons. Que cette soirée du 16 juillet marque nos vies pour le présent et pour l'éternité. Pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.